La revue de presse internationale, Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Retour ce matin au Chili, où le président Sébastien Piñera tente de calmer l'exaspération sociale en cassant sa tirelire.
47 jours déjà que s'exprime au Chili une colère populaire aussi profonde que violente et violemment réprimée. On parle d'au moins 23 morts et plus de 2000 blessés. Depuis lundi, donc, les autorités contestées détaillent leur contre-feu sonnant et trébuchant. Ça a d'abord été, on le lit dans la Nación de Chile, le gouvernement qui a dévoilé un plan de 5 milliards de dollars pour relancer l'économie sinistrée, nous dit-on, par la crise sociale. Un plan qui vise principalement les petits entrepreneurs et les classes moyennes considérées comme les premières victimes de la paralysie économique et des destructions causées par les émeutiers. Puis, c'est le président en personne, hier, Sébastien Piñera, dont la rue réclame la démission depuis fin octobre, qui y est allé de son cadeau aux familles chiliennes cette fois. À croire le quotidien La Tercera, qui s'interroge sur les conditions pour toucher ce coup de pouce, il devrait s'élever à 100 000 pesos, soit 112 euros par foyer, pour environ 1 300 000 familles éligibles. Alors bien sûr, toujours dans La Tercera, Serra, le chef de l'État, reconnaît qu'il ne s'agit là que d'offrir un soulagement aux familles touchées par la crise, que ce genre de petit bonus ne résout pas tous les problèmes. Il en a tout de même profité pour dire qu'après un tel effort maximal de sa part, il fallait que la violence des manifestations cesse enfin, que la paix sociale revienne.
D'où la question suivante, será eso suficiente? Est-ce que ça va suffire?
Eh bien, à lire ce qu'en disent les économistes interrogés par la radio Bio Bio Chile, Sébastien Piñera et son gouvernement sont encore loin du compte. À une contestation de fond sur l'organisation sociale néolibérale du pays, ils répondent par un saupoudrage très limité dans le temps, là où il aurait fallu des mesures structurelles avec un financement assuré justement dans le temps. Ces économistes mettent également en garde contre le fait de relancer l'économie en creusant la dette du Chili. Et pendant ce temps, nous dit El Diario Concepción, la police chilienne a dû, elle, aller acheter en urgence des recharges de gaz lacrymogène au Brésil parce que son stock annuel était arrivé à épuisement au bout de 40 jours de répression des manifestations. En quelques semaines, les carabiniers ont utilisé, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 98 000 bombes lacrymo, 18 000 grenades à main et ils ont tiré 161 000 cartouches de chevrotine qui ont grièvement blessé aux yeux près de 300 manifestants. La police vise la tête, accusait l'écrivaine chilienne Daniela Eltit dans une tribune publiée en fin de semaine dernière par l'édition sud-américaine d'El País. Le journal El Libero, lui, pose enfin la question du soutien de la population chilienne à cette contestation que rien ne semble pouvoir éteindre. Selon un sondage, 96% des interrogés réprouvent les pillages de magasins, tout comme une large majorité condamne les actes de violence. Mais à bien y regarder, 89% des interrogés se disent toujours favorables à des actions pacifiques comme les concerts de casseroles. 58% soutiennent les mots d'ordre de grève générale au Chili. Le soutien populaire reste donc solide. Il n'est pas sûr du tout que Sébastien Piñera parvienne à l'enrayer avec quelques poignées de pesos.
Et puis la COP 25 s'est ouverte lundi à Madrid et un pays s'affirme un bon élève de la prise de conscience climatique. Et ce pays, c'est la Nouvelle-Zélande, Camille.
Et c'est une profession de foi qui frappe les esprits. Le ministre du changement climatique néo-zélandais, l'écologiste James Shaw, affirme sur le site d'info Stuff que désormais toutes les grandes décisions prises par le gouvernement de l'archipel le seront avec un prisme climatique. Les effets de ces décisions sur l'environnement seront au cœur des préoccupations de l'État, affirme le ministre, qui explique que jusque-là, on évaluait les impacts des mesures à prendre sur les libertés fondamentales, sur les territoires ruraux, sur les personnes handicapées ou sur l'égalité des genres. À ces priorités d'action va donc s'ajouter celle de la lutte contre le réchauffement climatique qui deviendra dès lors obligatoire au-delà d'un certain impact sur les émissions de gaz à effet de serre et centrale dans le logiciel de prise de décision politique. Cette initiative a attiré l'attention également du Guardian britannique. Il nous rappelle que le gouvernement mené par Jacinda Ardern fixe l'objectif de zéro émission de gaz carbonique à l'horizon 2050 en Nouvelle-Zélande. Il a également exclu d'accorder de nouveaux permis d'exploration sur terre comme en mer pour les industries pétrolières et gazières. Il s'est engagé à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2028 et il force les agriculteurs néo-zélandais à polluer moins sous peine de payer des taxes plus importantes.
Et oui, et la Nouvelle-Zélande affiche son zèle en matière de lutte contre les causes du réchauffement climatique, Camille.
Et oui, dans le monde entier, les regards se tournent vers nous, s'emportent même un peu dans une tribune pour Stuff. Abby Reynolds, qui vient de quitter ses fonctions à la tête du Conseil néo-zélandais pour une économie durable. Elle dit son optimisme en voyant ce que l'archipel a déjà accompli et ce qu'il peut encore accomplir grâce à une population vraiment sensibilisée aux questions environnementales. Abby Reynolds conclut son texte en citant l'auteur japonais Haruki Murakami, l'horloge tourne, les heures passent, le passé s'accroît et le futur s'amenuise, les possibilités se réduisent et les regrets augmentent. Il est donc temps de passer aux actes comme un message adressé au gouvernement néo-zélandais au-delà des bonnes intentions affichées.